mais tu aimes parce que, oh Dieu, tu t'appelles l'amour. Seigneur, merci parce que tu as aimé des hommes qui ne méritaient pas cet amour. Des hommes qui ne valaient absolument rien. Des hommes humiliés par leur semblant. Des hommes, oh Dieu, traités de tous les mots par leur semblant. Des hommes, Seigneur, oh Dieu, qui n'ont rien, absolument rien pour mériter cet amour. Je ne mérite pas que tu m'aimes, Seigneur. Je ne mérite pas que tu m'aimes, oh Dieu. Je ne suis pas l'homme, oh Dieu, pour qui tu devais monter à la croix et payer de ton sang. Tu le sais, Seigneur. Tu le sais, Seigneur. Tu le sais, Seigneur. Toute ma bassesse a été, oh Dieu, dévoilée devant toi. Toute ma petitesse, oh Dieu, tu le sais, Seigneur. Je sais combien je lutte, combien je me bats, combien je me force, oh Dieu, avec peine, Seigneur, oh Dieu. Mais malgré tout cela, je puis encore accéder à cet amour, oh Dieu. Qui suis-je pour accéder à cet amour? Qui sommes-nous pour accéder à cet amour? Qui sommes-nous, oh Dieu, pour arriver là, Seigneur? Et pourtant, nous avons dans sur nous tous les défauts. Toutes les tares, toutes les saletés, Seigneur, tout ce qui peut nous éloigner de toi, tout ce qui peut barrer définitivement la route, oh Dieu, qui nous amène vers toi. Mais malgré tout cela, ton amour peut encore crier, oh Dieu. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu m'aimes. C'est tout ce qui redonne, oh Dieu, de la force à mon âme, je sais que tu m'aimes. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, je ne crains aucun mal, parce que je sais que tu m'aimes, oh Dieu. Même lorsque, Seigneur, oh Dieu, tout deviendra sombre autour de moi, je me souviendrai toujours que j'ai un amour en réserve pour moi. Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons pouvoir acclamer pour le Seigneur. Merci, merci, vous personne qui nous a aimé comme lui. Je peux tout oublier. Je peux oublier mes souffrances et mes peines. Je peux les forcer d'oublier les temps. Je n'oublierai jamais son amour. C'est tout ce qui nous maintient, frère et soeur. C'est tout ce qui nous conserve encore sur cette terre. Nous devions considérer tout ce que nous rencontrons comme peine et souffrance. Nous serions les premiers à dire, Seigneur, enlève-le, laissez-moi. Mais malgré tout cela, il y a son amour qui vient comme un calmant pour nous dire, je sais. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous disons merci à Dieu pour ce jour combien exceptionnel qu'il nous donne. Ce troisième dimanche dans cette année. Témoignons toute notre reconnaissance car ça n'a jamais été un privilège, un luxe. Bien au contraire, c'est une responsabilité. Et une très grande responsabilité. Parce qu'il est dit, vous qui prêchez les autres, vous serez sévèrement jugés. Et Dieu nous vienne en aide. Nous disons merci à l'homme de Dieu, le pasteur Maurice, pour cette confiance qu'il a encore réitérée sur notre personne, afin que ce matin, que nous soyons celui qui apporte la parole de Dieu au peuple de Dieu que vous êtes. Que l'Éternel vous voit, que l'Éternel vous visite, que l'Éternel réjouisse votre cœur ce matin. Alléluia. Ebenezer, jusqu'ici,
L'Éternel nous a secourus, troisième intervention. Nous lirons ce matin dans 1 Samuel chapitre 7, du 1er au 2e verset. 1 Samuel chapitre 7, du 1er au 2e verset. Évidemment, bien d'autres passages pourront intervenir tout au long de ce message. 1 Samuel chapitre 7, du 1er au 2e verset ou 1 et 2. Si nous avons trouvé, nous pouvons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Les gens de Kirjath Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent à la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Ce matin, Seigneur, que nous soyons, ô Dieu, assimilés à ces hommes et les femmes qui ont réalisé, ô Dieu, que 20 années étaient largement suffisantes pour que les choses changent. Ils avaient, ô Dieu, pris conscience que ce silence de 20 années, en réalité, ne leur profitait pas. Et pourtant, ils avaient tout ce qu'il fallait, ô Dieu, pour voir cette situation changer. Nous ne voulons pas rester au point mort, Seigneur. Mais nous voulons avancer et progresser avec toi. Ce matin, Seigneur, que ta parole, ô Dieu, touche nos cœurs. Et que ta parole, ô Dieu, de grâce, nous donne des ouvertures pour que nous ne restions plus esclaves de nos ennemis. Car cela est possible. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on pourra acclamer la parole du Seigneur? Le dimanche dernier, nous avons évolué avec ces thèmes Ebenezer jusqu'ici. L'Éternel nous a secourus après cette introduction de l'introduction, où nous avions cherché à comprendre le sens qu'il fallait donner à cette parole qui était devenue finalement incontournable dans la plupart de nos actions de grâce, surtout les actions de grâce ayant trait aux anniversaires, mais aussi des actions de grâce ayant trait au succès réalisé dans un domaine ou un autre. Et c'est là que nous avions compris que ce sont des phrases qui coûtent cher à leurs auteurs. Ce sont des phrases qui exigent de leurs auteurs, comme nous l'avions dit, d'une part du courage, mais d'autre part également la foi, parce qu'ils devaient affronter des réalités difficiles, même à part. Mais aussi, ils devaient mettre à profit la foi qu'ils avaient en Dieu. Croire là où c'était impossible de croire. Avancer là où tout le monde pouvait dire c'est impossible d'avancer, mais ils ont su faire la différence. Et nous avons dit que dans ce monde, pour faire la différence, vous devez être un homme de foi. Pourquoi nous avons dit qu'il était avantagé d'être un enfant de Dieu? Parce que celui-là, en dehors du fait qu'il évolue dans la sphère naturelle et qu'il peut bénéficier de certaines choses de façon naturelle, celui-là peut, lorsqu'il est bloqué dans la dimension naturelle, il peut alors déclencher les choses dans la dimension spirituelle. C'est là que l'impossible devient possible, c'est là que le difficile devient facile. Alléluia. Et le dimanche passé, nous sommes allés plus loin pour aborder les premiers points de cette introduction qui touche la résolution qu'il fallait prendre ou qu'il faut prendre 20 ans après. Quelle bonne résolution prendre 20 ans après? Et nous avions essayé de définir une résolution comme étant une attitude, comme étant une disposition d'esprit, mais aussi comme étant une qualité de quelqu'un qui ne se laisse pas détourner de ses entreprises. C'est-à-dire quelqu'un qui est focalisé sur quelque chose et qui n'a pas de temps pour donner l'occasion aux éléments extérieurs, à la destinée de Dieu, de toucher à sa vie. Et nous avons dit, nous avons posé la question, pourquoi alors devions-nous prendre des résolutions? Parce que nous sommes au début d'une nouvelle année, il est important que chaque enfant de Dieu fasse l'état des lieux de ce qu'a été l'année passée, et voir comment il va affronter l'année qui s'ouvre. Parce que tous, nous la désirons une année de la différence. Nous la désirons une année avec plein d'impact. Nous la désirons comme étant une année où nous n'allons plus subir les réalités d'autrefois. Et pour cela, tout passe par une résolution. Et pas n'importe laquelle, la bonne résolution. Alléluia. Donc il faut un état d'esprit. Il faut une disposition d'esprit. Il faut une attitude. Il faut une qualité qui ne puisse pas donner l'opportunité aux éléments extérieurs de toucher au plan que Dieu a prévu pour nous. Et là, nous avons dit que l'homme au départ, avant d'être cet être visible et touchable, a d'abord été le fruit de la pensée de Dieu. C'est pourquoi dans Genèse 1, 26, l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. L'homme qu'il veut, qu'il soit selon son image et sa ressemblance, il lui veut également une destinée. C'est-à-dire qu'il domine. Et c'est là que nous avons dit que vous n'êtes pas un fruit d'une rate naturelle. Vous n'êtes pas venu dans ce monde comme par hasard. Il est vrai qu'on entend parler souvent dans des familles, non, cet enfant, en tout cas, nous n'avons pas désiré. C'est pourquoi les médecins parlent de naissance non désirée. Mais c'est non désiré pour vous. Mais celui qui a validé son arrivée dans ce monde, il a un plan avec lui. Du moment où Dieu a autorisé qu'il accède dans ce monde, il est entre les mains de notre patron, il est entre les mains de notre maître qui gère son avenir. C'est pourquoi personne ne doit diminuer votre existence. Parce que vous n'existez pas pour votre voisin, mais vous existez parce que Dieu l'a validé. Dieu l'a voulu ainsi. Je ne vais pas me comparer à qui que ce soit. Mon existence est arrêtée par Dieu lui-même. Et il sait ce qu'il va faire avec moi. Alléluia. Donc chacun de nous, tel que nous sommes là, nous avons dit que nous avons une destinée, et pas n'importe quelle destinée. Un enfant de Dieu a une destinée puissante et glorieuse qui est assurée par Dieu lui-même. Mais qu'est-ce que le diable vient faire après? Le diable vient et pousse l'homme à pécher. Et l'homme, lorsqu'il pèche, il y a une séparation qui se fait entre lui et Dieu. Et le diable inculque dans l'homme la pensée selon laquelle par les péchés, tous les plans de Dieu tombent dans l'eau. Et c'est là que nous avons dit que c'est faux et archi-faux. Pourquoi? Parce que si tel était le cas, Dieu n'allait pas envoyer Jérémie avec une correspondance pour les captifs qui étaient à Babylone. Et là nous sommes dans Jérémie 29, verset 11. Lorsque Dieu envoie il envoie Jérémie et Jérémie fait une correspondance aux captifs qui étaient à Babylone, ils sont en captivité. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Mais Dieu dit, si je les laisse avec cette façon de voir les choses, ils se diront certainement tous les projets que Dieu avait pour nous sont tombés dans l'eau. Et pourtant c'est faux. Et Dieu envoie Jérémie et Jérémie fait cette correspondance pour dire à Israël, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est là que ça dépasse l'entendement des hommes. Comment ceux qui ont péché, mais tu leur envoies quand même une parole de réconfort. Et cette vérité, nous avons dit, a échappé à Israël, au temps de Samuel, la descendance de Jacob, qui a cru que par ses erreurs du passé, Dieu aussi avait annulé tous les projets qu'il avait pour Israël. Et nous avons dit que Dieu a un plan merveilleux pour son peuple que nous sommes. Les projets de Dieu sont des projets de paix et non de malheur. Israël n'a pas compris cette vérité parce qu'Israël a péché, nous avons vu. Depuis le chapitre 4 de 1 Samuel, nous voyons Israël s'engager dans une guerre alors qu'il n'est pas dans l'état où il pouvait combattre spirituellement par là. Et dans 1 Samuel 4, Israël s'engage dans le combat, il est à Ebenezer et les Philistins sont à Afek. Et là, la bataille va s'engager ce jour-là et Israël sera battu et il va perdre 4000 hommes. Et Israël va dire, non, non, si nous avons perdu ce combat, c'est parce que l'arche de l'Éternel n'était pas au milieu de nous. Mensonge. L'arche travaille lorsque votre cœur est en harmonie avec Dieu. Et Israël est allé chercher l'arche à Silo. Et l'arche est revenue. La Bible dit, il y a eu des cris de joie. Je me suis posé la question de savoir à quelle distance étaient les Philistins pour qu'ils entendent ces cris-là et qu'ils aient peur. C'était des grands cris de joie, ce jour-là. Et les Philistins ont crié là où ils étaient en disant, malheur à nous parce que ça n'a jamais été ainsi jusqu'à présent. Ils ont appris que le Dieu des Hébreux est venu dans le camp. Et les ennemis avaient déjà des prédispositions de la défaite. Mais lorsque l'ange arrive, Israël tout content, il va s'engager dans le combat. Et contre toute attente, Israël sera de nouveau battu. Et il va perdre ce jour-là 32 000 hommes. Ça veut dire qu'il y a au total 36 000 hommes. Et l'arche même sera prise et envoyée dans les camps des Philistins. Et l'arche va faire 7 mois dans le pays des Philistins. Et l'arche qui arrive dans le pays des Philistins fait des ravages. On entend parler des morts. On entend parler des hémorroïdes, des maladies graves. Et l'arche va se frayer son propre chemin jusqu'à retourner dans le pays d'Israël. Sans les secours d'aucune main, sans aucune négociation, sans aucune ambassade, l'arche a fait son propre chemin de retour et est rentré dans le pays. Israël qui constate que l'arche est rentré dans le pays, Israël se pose la question, nous avons appris ce qui s'est passé dans le pays des Philistins, il y a eu des maladies, et il y a eu même des morts. Pour tous ceux-là qui ont touché à l'arche, et même Dagon lui-même en premier, avait été broyé. Et Israël sera bloqué dans une sorte de peur à cause de ses erreurs du passé. La Bible dit qu'il s'est passé 20 années pendant lesquelles Israël est bloqué. Israël ne savait plus ouvrir la bouche. Israël ne savait plus parler. Pourquoi? Parce qu'Israël avait toujours en tête de souvenir des erreurs du passé. L'arche est venue à Israël croyant que l'arche allait commencer à tuer. Contre toute attente, l'arche a fait première année, deuxième, troisième. 20 ans après, Israël comprend que l'arche n'a pas tué. Et c'est là qu'Israël va se rendre compte que si l'arche n'a pas tué, ça veut dire que l'arche est devenu mon allié. Je voudrais dire à quelqu'un, si l'arche qui est venu dans cette ville, dans ce pays, dans cette province, c'est-à-dire le nom de Jésus, qui est venu au milieu de toi, ne t'a pas condamné, sache qu'il est venu pour être ton allié. Il est venu pour t'accompagner. Il est venu pour te guider. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus annonce son projet de société dans Luc 4, 17, lorsqu'il parle, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a envoyé, il détaille son projet de société et il termine par dire pour proclamer une année de grâce. Mais en réalité, comme vous avez dans Esaïe, ça ne se termine pas par une année de grâce. Ça se termine par un jour de vengeance. Mais lorsqu'il vient, il introduit notre période pour amener son peuple à vivre la joie qu'ils avaient perdue. Le temps de la grâce qu'il va introduire pour Israël. C'est la fin de ça que nous avons attiré notre attention sur le fait que ne restons pas esclaves des remords du passé. Ne restons pas esclaves des erreurs du passé. Ne restons pas esclaves de tout ce que nous avions fait de mal dans le passé. Parce que nous avons un Dieu plein d'amour. Un Dieu qui est prêt à pardonner. Un Dieu qui est prêt à refaire le plan qu'il avait au départ pour nous. Un Dieu qui peut encore te tenir par la main et t'accompagner. Nous sommes au début d'une nouvelle année. Arrête de regarder aux erreurs du passé. Regarde l'avenir que Dieu a mis devant toi. Il y a un avenir et de l'espérance pour toi. Ne reste pas esclave de tout ce que tu as fait dans le passé. Alléluia. Mais il nous est resté un ou deux aspects que nous n'avions pas pu aborder le dimanche passé. Et c'est là que nous voulons nous entretenir pendant ces quelques minutes qui sont devant nous. Voyons aujourd'hui un dernier ou deux derniers aspects de ce premier point d'introduction de notre thème Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous avons lu ensemble avec vous le verset 2e de 1 Samuel chapitre 16. La Bible dit qu'il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim. Et le nombre d'années nous est présenté également ici, il s'agit de 20 années. Il a dit, 20 années s'étaient écoulées. Je me suis posé la question de savoir. Dans quelle réalité vivait la descendance de Jacob en ce moment de son histoire. Face à quelle situation cette descendance était-elle confrontée? Quel était l'état moral? Quel était l'état sentimental même de ce peuple durant 20 années, alors que l'arche est déjà de retour dans le pays? Dans quelle réalité vivait la descendance de Jacob en ce moment de son histoire? Notez à cette question, nous répondons en disant que nous avons devant nous un peuple vivant dans un paradoxe qui les maintient dans un état de point mort pendant 20 ans. Nous avons devant nous un peuple qui subit un paradoxe. Un peuple qui subit un paradoxe, non seulement un paradoxe, mais un paradoxe qui les maintient dans un état de point mort. C'est-à-dire Israël ne sait pas avancer, Israël ne sait pas reculer, il est bloqué littéralement. Et cela pendant 20 ans de point mort dans l'histoire de ce peuple. Nous avons devant nous un peuple vivant dans un paradoxe qui les maintient dans un état de point mort pendant 20 ans. Mais vous poserez aussi la question de savoir, alors finalement, quel était ce paradoxe dans lequel Israël était en train de vivre. Notez ce paradoxe et je l'ai décrit de la manière suivante. Ce paradoxe, je l'ai décrit de la manière suivante. Notez, le Tout-Puissant est fort. Le Dieu Tout-Puissant est fort, dont les témoignages n'échappent à personne, est associé à un peuple dominé et dépouillé de ses villes et territoires par un autre peuple plus puissant que lui, dont les dieux sont faibles, voire mis en pièce par le Dieu Tout-Puissant. Je reprends ce paradoxe. Le Dieu Tout-Puissant est fort, dont les témoignages n'échappent à personne, est associé à un peuple dominé et dépouillé même de ses villes et territoires par un autre peuple plus puissant que lui, dont les dieux au pluriel, avec petit d, dont les dieux sont faibles, voire mis en pièce par les dieux tout-puissants et forts. Et ça c'est choquant, c'est fort, c'est dur, admettre comme vérité, admettre comme paradoxe. Parce qu'en réalité, quand on parle de paradoxe, para ça veut dire contre. Donc ça veut dire opinion ou jugement. C'est-à-dire contre jugement, contre opinion. Nous sommes en face d'un paradoxe parce que nul n'ignore les témoignages de ce Dieu Tout-Puissant. Les œuvres qu'il venait d'accomplir dans les pays de Philistins, qui peut oublier cela? Toute la région était informée de ce qui s'était passé 7 mois durant dans les pays de Philistins. Parce que c'était comme une sorte d'épidémie. Et dans tous les pays, on pouvait entendre des cris, on pouvait entendre des pleurs. Parce qu'il y avait des hémorroïdes partout. Dans chaque maison des Philistins, il y avait des hémorroïdes. Et même celui qui fait les médicaments pour les autres, lui-même est attrapé par l'hémorroïde. C'est-à-dire quand il fabrique pour lui, il fabrique aussi pour les clients. Dieu, on ne joue pas avec lui. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, on ne joue pas avec lui. Les Philistins l'ont eu pour leur cause. Ils ont frappé, ils ont bâti Israël. Il fallait s'arrêter par là. Il ne fallait pas prendre l'arc pour défier l'Éternel. Dieu, on ne défie pas, frères et sœurs. Vous osez défier Dieu, vous le rencontrez sur votre chemin. Vous osez vous opposer à Dieu, vous le trouvez également sur votre chemin. Et il va déchirer, il va faire des dégâts. Et les Philistins l'ont eu pour leur cause. Je me suis posé la question, est-ce que cette information n'était pas connue dans toute la région? Bien sûr que oui, parce que nous ici l'année passée, c'était 2019, c'était normalement une mauvaise année. Avec les chikungunya, pardon. Je vous assure, cette maladie-là, elle était improvisée, c'est très sale. C'était une mauvaise maladie. Moi-même à la maison, je suis sorti 2 fois, 2 heures du matin pour amener quelqu'un à l'hôpital. Vous avez quelques éléments tellement comme ça. Donc, le téléphone sonne, le téléphone est en train de sonner là. Mais il ne s'est pas appuyé. Et puis, un monsieur m'a pleuré, il m'a raconté, il disait. Et puis le monsieur regarde son téléphone, il dit à Dieu, il a mis la mouillette. Il a mis la mouillette, tout le monde a du coup. Donc lui là, il est comme ça. Une maladie qui vous paralyse tout, les articulations bloquées. Et tout le monde ici était devenu médecin. Il fallait faire les B1, il fallait faire les antidouleurs. Qui connaît encore la solution? C'était pareil aux Philistins aussi à cette époque-là. Qui était épargné? C'est comme nous aussi, qui était épargné de Chikungu là? Quand quelqu'un arrive à l'hôpital, même lorsque les taxis s'arrêtent, même les infirmières sont drôles, Chikungu. Et quand il descend tout le doigt, ah, même les infirmières commencent à rire. Il dit, oh, ça c'est quoi de la déontologie, il fallait pas rire. Et les infirmières qui sont derrière cette maïsité, ils se rient les seringues. Les mains sont bloquées. Et cette maladie, frères et sœurs, a frappé la ville. Mais les nouvelles sont parties trop loin. Tous les pays limitrophes angolais, tout comme Brazzaville, ils ont appris qu'à matin, il y avait Chikungu. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que toute la région ne savait-il pas ce qui s'était passé dans les pays de Philistins? Lorsque Dieu a frappé ce pays par les hémorroïdes et que même beaucoup en sont morts, tout le monde savait que le Dieu des Hébreux est le Dieu le plus puissant. Tout le monde savait que le Dieu des Hébreux est le Dieu très fort. C'est un Dieu avec qui on ne joue pas. Ils savaient bel et bien cette information, frères et sœurs. Et j'ai aimé même ce que les Philistins ont dit, nous sommes au chapitre 6e. À partir du verset 1er, écoutez les témoignages que ces hommes font de l'Éternel notre Dieu. La Bible dit, au chapitre 6e, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8, l'arche de l'Éternel fut 7 mois dans les pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins, et ils dirent, que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en solier. Il répondit, si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point vite. Mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Vous voyez ce que les païens pensent. C'est-à-dire un sacrifice de culpabilité, alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Les Philistins disent, quelle offrande lui ferons-nous? Il répondit, 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures sur vos tumeurs, faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent les pays. Et donnez gloire au Dieu d'Israël. Alléluia. Et donnez gloire au Dieu d'Israël. Ils ajoutent, peut-être ce sera-t-il d'apaisantir sa main. Il commence à citer sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Ça c'est formidable. Ils reconnaissent que le Dieu des Hébreux est le Dieu tout puissant. Et il y a point de Dieu qui soit comparable à lui. Il a frappé. Et les yeux paralysés, et le pays paralysé, et les princes paralysés. Personne ne sait pas bouger devant les dieux des Hébreux. Il dit, pour que sa main ne s'apaisantisse pas sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Écoutez le verset 6. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur? N'exerça-t-il pas ses châtiments sur eux et ne laissait-il pas alors partir les enfants d'Israël? Il se donne même un conseil et il se rappelle le souvenir de ces dieux grands, puissants et redoutables. Ils savent que ces dieux, lorsqu'il est allé prendre son peuple qui était en Égypte, ces dieux passaient par-dessus, par des pressions comme pas possible. Et parce que Pharaon devait endurcir son cœur, l'histoire est restée. Et ces gens peuvent aujourd'hui rappeler le souvenir de ce que Dieu avait fait en ce moment-là. Et ils disent, maintenant faites un champ tout neuf. Et prenez des vaches qui allaitent et qui n'aillent point porter les jours. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur les chars. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrant pour le péché. Pour vous, puis vous la rendrez et elle partira. Tous les pays savent qui est le Dieu d'Israël. Parce que l'information n'est pas restée seulement dans les limites du pays des Philistins. Mais le paradoxe intervient à quel moment? Le paradoxe intervient au moment où tout le monde sait que le Dieu d'Israël est le Dieu tout-puissant. Et même, il est rentré lui-même. Ce n'est pas que Israël est allé combattre, qu'il a récupéré l'arche et qu'il a ramené dans les pays. Dieu a créé lui-même son propre chemin et il est rentré dans les pays. Mais le paradoxe se situe à quel niveau? C'est que vous avez un Dieu tout puissant et très fort, mais vos villes et vos territoires sont encore entre nos mains.
C'est vrai, vous avez retrouvé votre Dieu. C'est vrai, vous avez retrouvé l'arche de l'Éternel. Mais qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes un peuple dominé. Vous êtes un peuple faible, adorant le Dieu fort. Vous êtes un peuple humilié. Vous êtes un peuple non respecté. Vous êtes un peuple moins que rien. Mais pourtant, nous savons que vous avez un Dieu fort. Nous savons tous que l'Éternel est grand, l'Éternel est redoutable. Mais qu'est-ce que vous êtes? Dans quelles conditions vivez-vous? Vos vies et vos territoires sont encore entre nos mains. Nous continuons encore à vous gérer. Nous continuons encore à avoir une main mise sur vous. Nous continuons encore à contrôler tous vos faits et gestes. Nous continuons encore à contrôler tout ce que vous faites. Où est l'honneur d'un peuple qui doit avoir un Dieu très haut, très puissant, mais que lui-même se retrouve dans des conditions de médiocrité, dans des conditions binaires, dans des conditions de moins que rien? Où est la valeur de ce peuple? Où est la dignité pour ce peuple, frères et sœurs? Aujourd'hui encore, des paradoxes s'entretiennent dans des vies. Les paradoxes sont là parce que nous crions, c'est vrai, que nous avons un Dieu fort, nous avons un Dieu tout-puissant, nous avons un Dieu grand et redoutable. Mais regarde autour de toi. Qu'est-ce que le monde dit de toi? Qu'est-ce que le monde dit lorsqu'il te voit? Qu'est-ce que le monde raconte lorsqu'on voit ta situation? Il est vrai qu'il y a ceux qui sont dans les processus de l'action de Dieu, qui sont en train de suivre et de suivre le cursus que Dieu a mis en place par rapport aux promesses. Mais quand cela les tient, frères et sœurs, les contrastes restent comme tels. Les paradoxes restent comme tels. Et ça suscite des jugements à gauche. Ça suscite des opinions à gauche et à droite. L'arche est rentrée dans les pays. Mais nos villes et nos territoires sont encore entre les mains de nos ennemis. Nous pouvons nous glorifier d'avoir un Dieu tout-puissant. Mais où sont nos villes? Où sont nos territoires jusqu'à présent? Nous pouvons nous glorifier, 2020, l'année de la rédemption, l'année tout ça, c'est vrai. Mais dans quel état? Si tu ne te rends pas compte de l'état dans lequel tu es, frère de sœur, tu ne sauras pas combattre. Pour les Philistins, si nous ne pouvons pas priver Israël de son Dieu, privons-lui la jouissance de sa bénédiction. Pour les Philistins, laissons Israël avoir accès à son Dieu, mais empêchons-le de jouir des promesses que Dieu lui a faites. Ils sont grands du côté de Dieu, mais du côté des peuples, ils ne sont pas grands. Nous acceptons que votre Dieu nous a frappés. Nous acceptons que votre Dieu nous a fait tout ce qu'il nous a fait. Mais vos villes sont entre nos mains. Et c'est la réalité de plusieurs aujourd'hui encore au milieu de nous. C'est la situation dans laquelle plusieurs vivent encore aujourd'hui, frères et sœurs. Nous pouvons beau crier, avoir Dieu, oui. Mais lorsque l'ennemi te regarde, qu'est-ce qui ne te rappelle pas qu'il détient et qui te concerne? Qu'est-ce que l'ennemi ne te dit pas par rapport à ton sens, à ta santé, par rapport à ton travail, par rapport à tes affaires, par rapport à tout ce que tu fais? L'ennemi a encore la gestion de tout ce qui est à toi. Il y a encore des choses qui sont encore entre les mains de l'ennemi, mais qui t'appartient? C'est un paradoxe, frères et sœurs. Un paradoxe, c'est lorsqu'on voit un homme qui a une promesse. Un homme qui a reçu une parole de Dieu. J'aurais voulu voir ce jour-là lorsque Jacob parlait à son oncle Laban, dans Genèse chapitre 30, lorsqu'il est allé lui voir pour lui dire, laisse-moi, donne-moi mes femmes et mes enfants, et que je retourne dans le pays de mes parents. J'aurais voulu voir le visage de cet homme avec une bénédiction authentique que Dieu lui a donnée. Ce n'était pas qu'il manquait de foi, il manquait une parole que Dieu lui avait donnée, mais il avait une parole, mais tout en étant dans un paradoxe. J'ai la promesse. Et il dit à Laban, voilà ce qu'est devenu ton troupeau. Et il précise que l'Éternel t'a béni sur mes pas. Si Dieu t'a béni, pourquoi ce Dieu-là ne peut pas aussi travailler pour me bénir? Je ne suis pas là pour bénir seulement les autres. Je ne suis pas là pour que les autres profitent seulement de moi. Quand est-ce que je travaillerai aussi pour moi, il pouvait ajouter. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Regarde comment. J'ai trouvé ton troupeau avec tel nombre de têtes. Mais aujourd'hui, voilà ce qu'est devenu ton troupeau. Dieu t'a béni sur mes pas. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, vous ne travaillez pas pour qu'un autre en profite. Dieu vous donnera de travailler pour que vous aussi, vous vous en jouissez, parce que ce matin, j'ai prié pour que des paradoxes tombent. J'ai prié pour que des réalités changent dans votre vie. J'ai prié pour que tout ce qui est resté pendant longtemps, un contre-jugement, puisse changer, parce que Dieu a le pouvoir de changer les réalités de votre vie. J'aurais voulu voir cet homme avec tous les regrets, avec un visage abattu, un état moral très bas et qui se manifeste au travers de son visage. J'ai une promesse, je croyais que c'est ici que Dieu allait faire fleurir cette promesse. Vous ne savez pas, frères et sœurs, par où passent les hommes qui ont des promesses. Et lorsqu'à un certain moment, on regarde la promesse et on regarde la réalité qu'on est en train de vivre, on est quelque part perdu. On est quelque part secoué, bouleversé. Et on se pose la question, pourquoi un tel paradoxe dans ma vie? Je sers un Dieu grand, un Dieu tout-puissant, mais ma condition ne reflète pas ce Dieu-là. Ma situation ne reflète pas ce Dieu-là. Vous travaillez, mais vous ne profitez pas de votre travail. Ce sont les autres qui ont travaillé. J'aurais voulu être là lorsque David était en train de parler au roi de Moab, nous sommes dans 1 Samuel 22, verset 3. Lorsque David était en train de fuir Saoul, alors qu'il a reçu l'onction royale et cette promesse ferme que Dieu lui a donnée qu'il régnera sur Israël. Mais écoutez une parole qui m'a toujours fait très mal. Et il dit, permets, je t'ai pris à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Comment tu peux prononcer une telle parole et pourtant tu as une promesse claire que tu régneras sur Israël? Mais à un certain moment, secoué par les événements, il dit jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. En d'autres termes, je ne sais plus ce que Dieu va faire de moi. J'ai devant moi la promesse, mais je ne le sens pas. Je vis autre chose. J'ai vu autre chose. Je voudrais voir ce matin un homme révolté, frères et sœurs. Un homme animé d'une sainte colère pour dire à Dieu, trop cette année. Il faut que ce paradoxe tombe. Il faut que ce paradoxe change. Il faut que ce paradoxe change, frères et sœurs. Tu n'as pas été fait, frères et sœurs, pour vivre toute ta vie dans un paradoxe. Israël a vécu 20 ans durant des paradoxes. Israël est passé par cette réalité sombre. Quelle honte dans la région. Tout le monde sait que tu es un Dieu fort, mais ta condition ne reflète pas le Dieu que tu invoques. Tout le monde a cette information. Tout le monde craint ton Dieu, mais personne ne peut te craindre parce que ta condition ne reflète pas le Dieu que tu invoques. Ta condition dit autre chose. Mais ton Dieu vient de faire des ravages. Ton Dieu vient de frapper par des hémorroïdes. Tout le monde sait qu'on ne joue pas avec le Dieu des Hébreux, mais tout le monde sait qu'on peut jouer avec Israël. Tout le monde sait qu'Israël, il est faible, il est fragile. Tout le monde sait qu'on peut faire n'importe quoi avec Israël. Nous pensions que comme leur Dieu est rentré dans le pays et qu'il va aussi leur restituer leur vie. Mais voilà que 20 ans, ils sont encore sous notre domination. Nous les gérons encore. Ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit. Israël a attendu première année, deuxième année, troisième année, cinquième année, où il est resté au point mort, ne bougeant pas et ne faisant absolument rien. Et vous êtes là ce matin, et vous vivez dans cette réalité ce matin. Et je voudrais vous informer une bonne nouvelle ce matin. Il y a une bonne nouvelle pour vous ce matin, et là nous sommes dans Ésaïe chapitre 54, à partir du premier verset. C'est vrai que vous aviez vécu dans ces paradoxes. C'est vrai que vous avez perdu la dignité des peuples. C'est vrai que tout le monde sait que vous avez un grand Dieu. Mais vous êtes un peuple minable, un peuple sans valeur, un peuple sur lequel on peut marcher à tout moment. Un peuple dont les villes sont gérées par ses ennemis. Mais lesquels ennemis ont un Dieu faible et même mis en piège. Paradoxe. Mais une bonne nouvelle pour nous tous ce matin, frères et sœurs, c'est que la parole de Dieu nous dit, et là nous sommes dans Ésaïe chapitre 54, Dieu vient au secours de son peuple comme il vient au secours de nous tous ce matin. Il dit ceci, c'est vrai que tu es humilié, c'est vrai que tu es dans cet état de choses, c'est vrai que tu passes par cette réalité, mais Dieu t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Réjouis-toi, stérile, réjouis-toi, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. L'Éternel te dit ce matin, sois dans la joie, parce que je ne t'ai pas abandonné, mais je suis là pour te secourir. Je suis là plus près de toi. Il est vrai que tu es humilié. Il est vrai que tu as perdu la dignité de peuple, mais sache une chose, que je suis là. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie le couvercle de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, qui a ton espace n'est pas tout ce que les gens ont vu jusqu'à présent. Tes limites ne sont pas les limites que les gens ont vues jusqu'à présent. Tes limites sont plus loin que celles que les gens ont vécues jusqu'à présent. Tu t'étendras à gauche, tu t'étendras à droite. J'aime la version Bible 21 qui dit, tu déborderas. Frères et sœurs, tes limites ne sont pas celles qu'on a vécues jusqu'à présent. Dieu annonce à un homme ce matin que tu vas te déployer, tu vas t'étendre à droite et à gauche et ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Il ajoute ceci, ne crains pas. Il dit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. C'est-à-dire, ne crains pas, car tu ne seras pas toujours dans ces paradoxes. Ne crains pas parce que le paradoxe a un début, le paradoxe aussi a une fin. Ce paradoxe ne traversera pas avec moi l'année 2020. L'année 2020, c'est l'année où les choses se feront claires. Je servirai le Dieu grand et moi-même je serai un grand serviteur. Je serai un grand peuple, je serai un grand homme. Ça ne sera plus l'année où je vais entretenir le paradoxe. Je vais dire à un homme, à une femme, ce paradoxe a pris du temps. Ce paradoxe a pris des années. 20 ans, c'est suffisant pour qu'un paradoxe soit observé dans la vie d'un enfant de Dieu. On peut comprendre un temps, mais ça ne sera pas toujours. Il y a un paradoxe qui doit tomber ce matin. Ne crains pas car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Il y a quelqu'un qui doit oublier la honte qu'il a commis. Il y a une femme qui a été comme répudiée et délaissée. Mais Dieu dit, tu oublieras. Cette année, le Seigneur va faire oublier un homme quelque chose. Rappelle-toi de quelque chose qui t'a fait mal les années passées. Rappelle-toi d'une situation qui t'a fait pleurer pendant les années passées. Mais Dieu te dit ce matin, cette année, tu oublieras la honte. Cette année, tu oublieras la honte de ton veuvage. Pourquoi? Il dit, car ton créateur est ton époux. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, il est le créateur de tout le monde, même le créateur des Philistins. Mais quand ça arrive chez toi, non seulement qu'il est créateur, il est aussi ton époux. Il a deux rôles. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il fera avec tout le monde en tant que créateur. Mais il y a certaines choses qu'il fera avec moi en tant qu'époux. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est-à-dire, ton Dieu a une autre dimension avec toi. Il y a une autre dimension de relation avec toi. Pour tout le monde, il est le créateur. Mais pour toi, il est aussi, en plus du créateur, il est ton époux. C'est-à-dire, tous tes besoins, c'est lui qui doit les satisfaire. Tous tes désirs, c'est lui qui doit les prendre en charge. Tu ne seras pas déshonoré. Ne reste pas dans cet état comme si tu as été abandonné de Dieu et oublié. Il te rappelle ce matin qu'il est ton créateur, mais aussi il est ton époux. La Bible est ensuite pour dire, car ton créateur est ton époux, l'Éternel désarmé est son nom. Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Il se nomme Dieu de toute la terre. C'est-à-dire, la terre même là où vivent les ennemis qui t'ont méprisé. La terre dans laquelle vivent les Philistins qui détiennent encore tes villes et tes territoires. C'est lui qui est le créateur de toutes ces terres-là. C'est lui qui connaît tous les enjeux de ces terres-là. Il te dit, ne crains rien. Ce que tu as perdu, tu le retrouveras. Ce que tu n'as pas, tu l'auras cette année. Ce que tu as toujours rêvé, tu l'auras cette année. La liberté que tu as toujours cherchée, tu l'auras cette année. La vie que tu as toujours tant aimée, que tu l'auras cette année. Il y aura des choses qui se feront dans ta vie. Non pas parce que les hommes auront pitié de toi, mais parce que ton créateur est ton époux. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera point. Mais écoutez ce qu'il ajoute encore.
car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Y a-t-il une femme attristée ce matin? Y a-t-il un homme attristé ce matin? L'Éternel te rappelle. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Mais écoutez le verset 7 sagesse. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton rédempteur, l'Éternel. Ce qui t'a fait mal jusqu'à présent avait un caractère de quelques instants seulement. Mais la promesse que Dieu te réserve, la bénédiction que Dieu a planifiée pour toi, a un caractère, a une portée éternelle, c'est-à-dire sans limite. Tu passeras et tes enfants en jureront, tes enfants en jureront, parce que ce n'est pas un homme qui l'a décidé, mais c'est l'Éternel désormais qui l'a décidé ainsi. J'ai vécu dans un paradoxe. Oui, Dieu a vu que j'étais dans un paradoxe. Mais attendez-vous aussi le jour où Dieu va briser ces paradoxes, le jour où Dieu va rompre ces paradoxes et qu'il va m'accorder de vivre la puissance de sa parole. Ne promène pas les regards inquiets, car tu ne seras pas déshonoré. Et Dieu fait un serment extraordinaire, un serment formidable. Il dit, il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Wow. De ne plus jamais te menacer. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, tu as vécu dans un paradoxe qui ne t'a pas profité. Mais ce paradoxe t'a profité à tes ennemis. Tu étais devenu comme un marchepied. Tu étais devenu comme un torchon. Mais Dieu sort de son silence et il te dit, non, ce n'est pas toujours le cas. J'agirai qui s'y opposera. Il y a une action que Dieu va produire et qui va étonner les hommes autour de toi. Oh Jésus. Et puis, il fait une comparaison extraordinaire. Et il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. J'aime lorsque Dieu évoque l'alliance. Parce que c'est là où tout a été décidé. Frères et sœurs, ce que tu deviendras n'a pas été le fruit d'un accord des hommes. Mais c'est le fruit d'une alliance qui a coûté le sang de Dieu lui-même. Il a versé son sang pour conclure cette alliance. Ça veut dire que ce que tu deviendras sera plus fort que ce que les gens pensent de toi. Malheureuse bâtie de la tempête et que nul ne console, c'est pas grave. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte, tes pierres précieuses. Tous tes fils, je retisserai les verres. Et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage. Je dis bien, tel est l'héritage. Je répète encore, tel est l'héritage. J'écris encore, tel est l'héritage. J'écris encore, tel est l'héritage. Ce ne sont pas des choses en l'air, mais tel est l'héritage. Il y a un héritage que Dieu a promis pour maintenant. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Il y a un salut que Dieu a réservé pour un homme. Il y a un salut que Dieu a réservé pour une femme. Ne promène pas de regards inquiets. Le paradoxe doit finir. Le paradoxe ne doit pas traverser après 20 ans. La bonne nouvelle, ce paradoxe a plus que duré. Un paradoxe qui a pris du temps, 20 ans, c'est suffisant. Notez un deuxième aspect pour terminer. C'est que trop souvent, les paradoxes cachent notre vraie nature. Trop souvent, les paradoxes cachent notre vraie nature et laissent apparaître un jugement opposé au dessein de Dieu pour notre vie. Je reprends. Trop souvent, les paradoxes cachent notre vraie nature
et laisse apparaître un jugement opposé au destin de Dieu pour notre vie. Je continue encore pour dire, cependant, sans un cri de notre part, il est impossible d'accéder au jugement de Dieu à notre faveur. Trop souvent, les paradoxes cachent notre vraie nature, notre véritable espèce. Trop souvent, les paradoxes cachent notre vraie nature et laissent apparaître un jugement opposé. Opposé au destin de Dieu pour notre vie. Cependant, sans un cri de notre part, il est impossible d'accéder au jugement de Dieu à notre faveur qui révélera ce que nous sommes réellement. Quelle était la nature cachée des enfants d'Israël? Parce que nous disons que trop souvent les paradoxes cachent notre vraie nature. Quelle était la nature de la descendance de Jacob en ce moment? Si nous lisons dans Genèse 17, du verset 4 au verset 6, la Bible nous parle d'Abraham. Dieu change le nom d'Abraham à Abraham. Et Dieu ajoute une parole. Il lui dit, il lui parle de sa descendance. Et au verset 6e, l'Éternel dit à Abraham, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Et il ajoute quelque chose de très important, j'aimerais que vous puissiez saisir. Il dit, et des rois sortiront de toi. Et des rois sortiront de toi. Plus tard, lorsqu'il parle finalement cette fois-là à Jacob lui-même. Et là nous sommes dans Genèse chapitre 35. Jacob est sorti de chez Laban et il est en route vers le pays de sa naissance. Dans Genèse chapitre 35, du verset 9 au verset 11, vous pouvez lire tous les trois versets à la maison. Mais écoutez ce qu'il dit au verset 11. Je suis le Dieu tout-puissant. Il répète les mêmes paroles qu'il a données à Abraham. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et il ajoute encore, et des rois sortiront de tes reins. C'est-à-dire, Dieu insiste sur la nature de la descendance de Jacob. Ils ne sont pas de n'importe quelle espèce cette descendance. Ce sont des rois, frères et sœurs. Ce n'est pas que lorsqu'ils auront le pays, tout le monde sera roi dans son coin. Non, bien sûr. Mais c'est une question de conditions dans lesquelles ils devront vivre. Mais il y a ce paradoxe qui plane encore sur ce peuple, comme nous le fait découvrir Ecclésiaste 17. Lorsque Ecclésiaste dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux, mais j'ai vu des princes marchant à pied. Cette descendance, sa nature de roi est cachée derrière un paradoxe. C'est là que nous avons dit trop souvent, les paradoxes cachent notre vraie nature. Ils étaient des rois, mais cachés derrière un paradoxe. Mais quand bien même que cette nature est cachée par un paradoxe, la graine reste toujours graine. Et quand Jésus donne la parabole de ce grain de sénévé, il dit, c'est la plus petite graine. Mais quand on l'a plantée, il devient finalement un grand arbre, et les oiseaux peuvent venir s'abriter dans cet arbre-là. Ça veut dire que quand vous le voyez petit, ça ne remet pas en cause son espèce. C'est-à-dire, je suis petit, mais j'ai un cursus, j'ai un processus pour arriver là où je dois arriver. C'est-à-dire, dans ce processus-là, quand je suis enterré, je disparais. Cela ne signifie pas que je suis mort et que c'est terminé pour moi. N'oubliez pas que dans ma nature, mon espèce a été déjà détaillée bien avant. C'est-à-dire, quand bien même que vous me voyez disparaître là, sachez une chose, qu'il est d'une nature qui finira par exploser un jour. Le paradoxe ne doit pas t'empêcher de devenir ce que Dieu a décidé pour toi. Tu as quelque chose à faire ce matin. Israël a compris qu'il est de l'espèce royale et qu'il ne doit pas rester dominé par les incirconcis qui sont les Philistins. La Bible déclare, il s'était passé bien de temps, bien des années depuis que Israël et depuis que l'Ange était revenu à Kirjath-Jéarim. J'aime ce ce que la Bible ajoute. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements. C'est-à-dire, où peu nous sommes arrivés, je ne me contrôle plus. Ce qui importe pour moi, je dois enfanter ma destinée par un cri. Je dois enfanter ce que je dois devenir, ma nature, mon espèce, non pas de la timidité, non pas en regardant les choses pour dire que c'est normal, mais cette année, je vais crier, même si je te dérange, sache une chose que je crie pour enfanter ma destinée. Je ne crie pas pour toi, mais je crie parce qu'il y a des choses à moi qui doivent sortir. Il y a des choses à moi qui doivent sortir. Et si je dois crier, laisse-moi crier. Ne m'impose pas ton cri. Parce que tous nous ne sommes pas d'une même espèce. La Bible déclare même dans Jacques, Jacques chapitre 5, verset 13 au verset 14. L'apôtre fait même cette différence. Et il dit ceci. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il vienne prier pour lui. Si quelqu'un est de la joie, qu'il fasse quoi? Qu'il lui chante les chants de louange. Et moi j'ai des choses que je dois enfanter. Tu me dis de chanter là où je dois crier. Mon cri n'est pas ton cri. Je ne te toucherai pas dans ton cri. Je te laisserai libre pour pousser ton cri parce que tu sais ce que tu attends. Moi aussi, je sais ces choses que j'attends. Laisse-moi crier librement. Ne m'intimide pas par ton cri pour me dire, même si tu es un homme, tu as anticipé déjà l'action de grâce. Anticipez beaucoup, vous allez. Ce n'est pas le cri approprié, c'est pourquoi vous ne recevez pas. Je vais crier pour lui en disant, ça ne va pas. Israël a dit, cette fois-ci, ce n'est pas une question de cri de joie comme on le voit. Mais c'est des cris de gémissement. Et quand on comprend la pensée de gémissement, c'est-à-dire c'est un son inarticulé. C'est-à-dire qu'il ne se contrôle plus. C'est comme une femme enceinte qui est à terme, qui doit accoucher. Il tient son ventre, il tient les deux, il ne sait pas sur quoi tenir. Mais il a quelque chose qui doit enfanter. Cette année, ta destinée doit être enfantée. Mais pour cela, tu dois pousser un cri. Que ton cri soit le cri qui doit déterminer de quelle espèce tu es. Lève-nous. Nous allons prier. Quel est le paradoxe qui plane encore sur ta vie? Il y a un paradoxe dans lequel tu es soumis pendant plusieurs années. Pour Israël, ça a été un point mort de 20 ans. Et toi, tu es dans ces points morts, ça fait combien d'années? Peut-être une année, peut-être 2 ans, peut-être 5 ans, peut-être 6 ans. Tu es dans un point mort et rien ne bouge. Parce qu'il y a un paradoxe qui profite à l'ennemi et qui te maintient dans cet état. La Bible déclare, alors que Jésus est sur la croix, il y a ce paradoxe qui revient encore. Le soldat qui était autour de lui commence à l'insulter, à l'humilier pour lui dire, tu as guéri les autres, guéris aussi, guéris-toi toi-même. Descends même de cette croix-là. La Bible déclare, alors que Jésus va pousser un grand cri, et il va rendre l'âme. Les mêmes personnes qui ont dit, sauve-toi toi-même, ils pouvaient dire, assure-moi, c'est temps de tes fils de Dieu. Frère et soeur, le paradoxe qui t'a courbé jusqu'à présent doit cesser. Il y a un temps pour chaque chose. Tu ne dois pas rester esclave de ces paradoxes. Élève ta voix. Parle au Seigneur. Il est question de ta vie cette année. Nous avons dit qu'il y a une résolution à prendre. La bonne résolution ce matin, c'est de se décider de sortir de ces paradoxes par un cri. Un cri qui doit révéler ce que tu es. Un cri qui doit faire jaillir ce que tu es. Tu n'es pas de n'importe quelle espèce pour accepter n'importe quoi. Tu es d'une descendance royale. Tu es de la descendance prophétisée déjà bien avant. Tu es de la descendance dont Dieu a parlé déjà depuis longtemps. Tu es de la descendance royale. Ta condition ne reflète pas ce que tu es. Et pour enfanter cette réalité, cette nature qui est cachée par les paradoxes, ce matin crie. Ce matin crie. Je ne sais pas tu avanceras quel cri. Je ne sais pas tu vas dire quoi dans ce cri-là. Mais je veux simplement que ce matin que tu dises à Dieu, trop c'est trop. Mon espèce doit sortir. Ma nature doit refléter le Dieu grand que je sers. Cette année 2020, je vais accéder grandement à Dieu, mais je vais aussi accéder à mon héritage. Je vais accéder à ma nature. Je vais accéder à mon espèce. Je ne resterai pas toujours ce que les hommes ont vu. Je ne resterai pas toujours ce que les hommes ont vu jusqu'à présent. Mon espèce doit sortir. Ma nature doit sortir. Je suis une descendance royale.
Les conditions dans lesquelles je vis ne sont pas les conditions de la descendance royale. Seigneur, souviens-toi de moi. Et si tu as péché, demande pardon à Dieu. Si tu t'es éloigné de Dieu, dis à Dieu, Jésus, je réponds, je reviens à toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Oh Jésus, une descendance royale et qui doit refléter ce qu'il est. Elle est, oh Dieu, une descendance, pas n'importe laquelle, mais une descendance royale avec toutes les conditions, oh Dieu, qu'il reflète, Seigneur, ce que tu as destiné pour lui. Il ne sera pas toujours objet de paradoxes dans sa vie, que ce paradoxe soit nous fait et que la réalité des choses soit visible. Seigneur, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Que ces paradoxes tombent au nom de Jésus. S'il vous plaît, j'aimerais que là où nous sommes, que nous puissions nous lever, je vous en supplie. Nous allons prier pour notre berger. Il y a un paradoxe qui plane encore sur sa vie. Et je suis convaincu que ce paradoxe se quittera par le cri. C'est le cri qui vient changer la destinée des choses, qui vient changer la nature des situations. Nous allons prier pour dire à Dieu, ce paradoxe a plané pendant trop longtemps. Ce paradoxe est resté comme tel pendant des années et des années. 2020. Comme il a été dit, il s'était écoulé 20 années. Et après ces 20 années, le paradoxe avait cessé. Nous allons dire à Dieu, 20 ans après, que le paradoxe de ton serviteur cesse. Que ce paradoxe disparaisse. Que les paradoxes, que ces paradoxes tombent aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons élever nos voix tout en battant les mains? Il faut crier pour enfanter quelque chose. Il faut crier pour provoquer quelque chose. Il faut crier pour donner naissance à quelque chose. Souviens-toi de ton serviteur, mon Dieu. Souviens-toi comme tu t'es souvenu d'Israël en Égypte. La Bible déclare, tu as entendu les cris que lui faisait pour de ses oppresseurs. Tu as vu, tu as entendu le gémissement. Seigneur, j'ai prié au Dieu pour que Seigneur sa vraie nature sorte. Les choses que tu lui as dites, que ces choses-là se réalisent et s'accomplissent. Seigneur, tu es Dieu. Et nul ne peut contester contre toi, ô Dieu de grâce. Tu as le pouvoir de changer la réalité des choses. Tu as le pouvoir, Seigneur, de faire en sorte, ô Dieu, que le Dieu grand soit adoré par un serviteur grand. Que le Dieu tout-puissant soit adoré par un serviteur puissant. Tu as le pouvoir de le faire, ô Dieu, que ces paradoxes se tombent aujourd'hui. Seigneur, que ces paradoxes se tombent. Que ces paradoxes se tombent. Nous avons nos mains levées, Seigneur, merci. Que des paradoxes dans la vie, Seigneur. Nous ne savons pas les voir derrière ces mèches, ces rouges à lèvres, ces vestes, ces cravates. Et pourtant, tant de réalités, oh Dieu, paradoxales. Des gens, Seigneur, oh Dieu, qui ne savent plus quoi faire. Ils se débrouillent seulement pour paraître dehors. Mais qu'est-ce que les gens disent autour d'eux? Ils n'ont plus de respect, ils n'ont plus de considération. Seigneur, souviens-toi de ce peuple. Souviens-toi de cette église, oh Dieu. 20 ans après, il y a des paradoxes qui doivent tomber. Bénis ce peuple.